Le Monde aujourd'hui, Jean-Roger Billon à ce micro, au sommaire de cette édition du jeudi 26 décembre 2024. Au Mozambique, l'opposant Venancio Mondlane accuse les forces de sécurité de laisser prospérer les troubles et pillages pour justifier une déclaration d'état d'urgence. Le président angolais João Lourenço a accordé une grâce à José Filomeno Zenu dos Santos, fils de l'ex-président José Eduardo dos Santos. En Afrique du Sud, les technologies numériques transforment et dynamisent les activités des petits exploitants agricoles.
We have adapted soil. Nous avons adopté le pH du sol, la teneur en matière organique du sol, la teneur en azote du sol ou des informations qu'aucun autre système n'a réussi à obtenir à ce niveau.
Reportage à suivre dans la partie magazine. Dans l'ouest de la Syrie, opération en cours contre les milices pro-Assad. En Corée du Sud, l'opposition dépose une motion de destitution contre le président par intérim. Ne manquez pas notre page sport ainsi que la minute éco. On commence par le journal. La police kényane a nié aujourd'hui toute implication dans une série d'enlèvements présumés de contestataires du gouvernement dénoncés par des organisations de défense des droits humains. Parmi les disparus figurent trois jeunes influenceurs critiques envers le président William Ruto ainsi qu'une activiste connue sous le nom de Naomi. La Commission kényane des droits de l'homme a recensé 74 enlèvements depuis les manifestations de juin J, dont 26 personnes restent introuvables. Des figures politiques comme Raila Odinga appellent le gouvernement à agir face à cette vague sans précédent. Au Mozambique, le principal opposant Venancio Mondlane accuse les forces de sécurité de laisser faire les troubles et pillages qui se multiplient depuis lundi dans le pays pour donner au pouvoir l'occasion de déclarer l'état d'urgence et d'écraser la contestation. Jacques Aristide.
Barricades, heurts avec la police, mise à sac de commerce et de commissariat. Depuis le début de la semaine, le vandalisme et la violence ont fait des dizaines de morts et permis à plus de 1500 détenus de s'évader d'une prison de Maputo. Ces heurts se sont produits quand la plus haute cour du pays a confirmé la victoire du Frelimo, parti au pouvoir depuis un demi-siècle, aux élections du 9 octobre dernier. Nos manifestations visent le Conseil constitutionnel, la commission électorale, le parti Frelimo lui-même, qui sont les responsables de la fraude électorale, a affirmé Venancio, comme l'appelle la rue, dans un message sur les réseaux sociaux. Il revendique la victoire alors que le Conseil constitutionnel a déclaré lundi Daniel Chapo, candidat du Frelimo, vainqueur de la présidentielle avec 65% des suffrages contre près de 71% initialement annoncé en octobre par la commission électorale. Mardi soir, le gouvernement a fait état de 21 morts, dont deux policiers dans les violences, et mercredi l'évasion spectaculaire de ces plus de 1500 détenus près de la capitale Maputo s'est soldée par la mort de 33 d'entre eux lors des affrontements qui ont suivi avec le personnel pénitentiaire, selon le chef de la police.
Et dernier bilan aujourd'hui des violences de ces trois derniers jours au Mozambique. L'ONG locale Plata Forma décide et fait état de 125 morts. Le chef de l'État angolais, João Lourenço, a gracié, selon la présidence, une cinquantaine de personnes condamnées, y compris José Filomeno dos Santos, le fils de l'ancien président José Eduardo dos Santos. Il avait été condamné à 5 ans de prison pour détournement de fonds. Les détails avec Nani Talani.
Cette grâce s'inscrit dans le cadre du cinquantenaire l'an prochain de l'indépendance de l'Angola, dans un esprit d'harmonie, de clémence, d'indulgence, de concorde et de fraternité, précise un décret affiché jeudi sur la page Facebook de la présidence. Surnommé Zenu, José Filomeno dos Santos, 46 ans, qui en bénéficie, avait été l'un des premiers membres de la famille dos Santos à être poursuivi dans le cadre de la campagne anticorruption lancée par João Lourenço à son arrivée au pouvoir en 2017. Ancien dirigeant du Fonds souverain angolais, Zenu et trois complices étaient accusés d'avoir transféré illégalement 500 millions de dollars de la Banque centrale vers le compte londonien d'une agence du Crédit Suisse, détournant jusqu'à 1,5 milliard de dollars. Depuis la mort de l'ex-président José Eduardo dos Santos en 2022, sa famille accuse le président Lourenço de persécution politique. L'aînée Isabelle dos Santos et ex-dirigeante de Sonangol est accusé de détournement de milliards de dollars et fait l'objet de plusieurs enquêtes.
La base militaire française de Faya au Tchad a été rétrocédée ce jeudi à l'armée tchadienne, moins d'un mois après l'annonce surprise de la suspension de l'accord militaire entre Paris et N'Djamena, a annoncé l'état-major tchadien dans un communiqué. Des soldats français, sans qu'on ne connaisse l'effectif précis, ont quitté Faya par la route pour rejoindre la capitale, un peu moins de 780 kilomètres au sud-ouest. Des élections législatives, provinciales et locales se tiennent dimanche dans le pays. Le gouvernement sénégalais est en total déphasage avec le ministre ayant qualifié les tirailleurs sénégalais de traite ayant combattu leurs frères africains, a affirmé aujourd'hui son porte-parole, des propos qui ont soulevé un tollé dans le pays. Ministre en charge de l'administration et de l'équipement à la présidence de la République, Cheikh Oumar Diagne avait affirmé que ceux qui célèbrent les tirailleurs ne savent pas ce que sont en réalité ces soldats coloniaux dans une interview avec une télévision locale publiée le 21 décembre.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
En Syrie, les nouvelles autorités ont lancé ce jeudi une offensive contre les milices fidèles à Bachar al-Assad dans la province de Tartous, une région historiquement alaouite. Et à Gaza, les frappes israéliennes suscitent l'indignation après la mort de journaliste palestinien Eric Manirakiza.
Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, 3 personnes ont été tuées dans des affrontements liés aux tensions ethno-religieuses exacerbées par l'incendie d'un sanctuaire religieux à Alep. Dans les rues d'Ojablé, le slogan des manifestants résonne « Alaouite sunnite, nous voulons la paix ». Ces premières manifestations post-Assad reflètent les craintes de marginalisation des Alaouites, longtemps considérés comme proches de l'ancien régime. À Tartous, les forces de sécurité ont intensifié leurs opérations, arrêtant plusieurs individus. Selon Mohamed Abdel-Lahman, nouveau ministre de l'Intérieur, des affrontements ont coûté la vie à 17 personnes, dont 14 agents. Parallèlement à Gaza, 5 journalistes ont été tués lors d'une frappe israélienne ciblant un véhicule de diffusion extérieure, selon la chaîne de télévision locale Al-Quds Today. Le syndicat des journalistes dénonce un crime contre la presse, alors que l'armée israélienne affirme avoir visé une cellule terroriste du djihad islamique, tout en prenant des précautions pour éviter les victimes civiles.
L'armée israélienne a annoncé aujourd'hui avoir frappé des cibles militaires des rebelles Houthis au Yémen, qu'elle accuse d'être au cœur de l'axe de la terreur iranien. Saal a affirmé avoir répondu aux attaques répétées des rebelles yéménites contre l'État d'Israël et ses citoyens. L'opposition sud-coréenne a annoncé aujourd'hui avoir déposé une motion de destitution à l'encontre du président par intérim Han Duk-soo. Nouvel épisode de la crise politique que vit le pays. Le point avec Rosine Monizero.
Nous avons déposé la motion juste avant la séance plénière, a déclaré à des journalistes à l'Assemblée nationale le député du Parti démocrate Park Il-sung-yoon. Nous la soumettrons au vote demain, a-t-il ajouté. Han Duk-soo, premier ministre, assure l'intérim de la présidence et le président Yoon Suk-yeol est suspendu en attendant le verdict de la Cour constitutionnelle. L'opposition reproche à M. Han de refuser de pourvoir 3 sièges vacants à la Cour constitutionnelle qui doit, dans les 6 mois, valider ou invalider la destitution du président conservateur Yoon Suk-yeol, votée par les députés le 14 décembre pour sa tentative ratée d'imposer la loi martiale et de museler le Parlement en y envoyant l'armée 11 jours plus tôt. De son côté, M. Han soutient que son statut de président intérimaire ne lui donne pas le pouvoir de procéder à des nominations importantes et exige que le choix des juges fasse d'abord l'objet d'un accord entre tous, le parti du pouvoir au peuple, parti au pouvoir et les formations d'opposition. La Cour constitutionnelle doit tenir demain vendredi une première audience sur la destitution de M. Yoon.
Des personnes endeuillées et en larmes ont prié aujourd'hui lors de cérémonies organisées dans plusieurs pays d'Asie pour marquer le 20e anniversaire du tsunami le plus meurtrier de l'histoire qui avait tué plus de 220 000 personnes le lendemain de Noël. Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9.1 au large de la côte ouest de l'île indonésienne de Sumatra engendrait d'énormes vagues qui avaient déferlé sur l'Indonésie, le Sri Lanka, l'Inde, la Thaïlande et 9 autres pays de l'océan Indien avec des victimes jusqu'en Somalie. Voilà pour le journal, vous suivez VOA Afrique. À présent, la Minute Éco avec Nanit Alani.
La Gambie a besoin des progrès dans les réformes structurelles, notamment pour améliorer la gouvernance et l'environnement des affaires, ainsi que favoriser le développement du secteur privé et la création d'emplois, estime le FMI. Le fonds recommande aussi de renforcer la gestion des finances publiques, de prévenir l'accumulation de créances intérieures et d'améliorer les performances des entreprises publiques qui sont des éléments clés pour gérer les risques fiscaux. Sasol, la production pétrochimique sud-africaine, a réduit sa production de gaz naturel à son installation de Temane au Mozambique en raison des troubles post-électoraux pour garantir la sécurité de son personnel et de ses actifs. L'Afrique du Sud, qui dépend du gazoduc Ramco pour ses importations de gaz en provenance de Maputo avant d'être acheminée vers ses régions de Gauteng et du KwaZulu-Natal, a été informée par Sasol que la fourniture de gaz serait limitée pour assurer la stabilité du réseau.
Place maintenant au sport avec Eric Panirakiza. Bonsoir Eric.
Bonsoir Jean-Roger.
En Angleterre, Manchester City ne s'est plus gagné, même contre Everton.
Le traditionnel Boxing Day n'a apporté aucun réconfort au quadruple champion d'Angleterre, Manchester City, tenu en échec par le mal classé Everton, un but partout, jeudi à domicile, et plus que jamais en crise. La fin de match aurait pu virer au cauchemar pour les locaux, mais Everton, à 4 joueurs contre 2 défenseurs, a gâché une contre-attaque dans le temps additionnel. L'équipe de Pep Guardiola ne sait plus étouffer ses adversaires comme autrefois et ne sait plus trop bien défendre ni tuer un match et surtout elle ne sait plus comment gagner ou presque. Depuis fin octobre, elle n'a remporté qu'une seule de ses 13 rencontres disputées contre 3 nuls et 9 défaites dans les différentes compétitions où elle a évolué. Les mancuniers ont complètement décroché du wagon de tête et notamment de la locomotive Liverpool qui compte 11 longueurs de plus malgré 2 matchs joués en moins. Cet effondrement spectaculaire met non seulement fin à l'espoir d'un nouveau titre en Premier League, mais devient inquiétant dans l'optique de la qualification pour la prochaine Ligue des Champions.
NBA, Stephen Curry et LeBron James offrent un festin pour Noël.
Stephen Curry, 36 ans, et LeBron James, bientôt 40 ans, une quarantaine de saisons NBA à eux deux ont offert un festin au public de San Francisco pour le Christmas Day mercredi. Lakers l'emportant sur les Warriors 115 à 113 au bout du suspense. Les deux superstars se sont rendus coup pour coup comme en témoigne leur ligne de stats. 38 points, 6 passes décisives pour le Golden Boy. 31 points et 10 passes pour King James qui dut surpasser de son compère Anthony Davis, victime d'une entorse à une cheville dès le premier quart. Noël est un jour d'offrande et c'est ce que Steph et moi continuons d'essayer de faire pour nos fans, pour ce jeu magnifique, a commenté LeBron James qui jouait un 25 décembre pour la 19e fois. On ne sait pas combien de temps encore nous allons avoir cette confrontation. On essaie de donner au basket ce qu'il mérite parce qu'il nous a donné tellement, a-t-il ajouté. Comptablement, la bonne opération est évidemment pour les Lakers, 7e de la conférence Ouest après cette 17e victoire, tandis que les Warriors, 9e, 15-14, subissent une 11e défaite en 14 rencontres.
Les Sixers gâchent la fête à Boston.
Boston, où les Celtics sont perdus pour la 2e fois de rang, ce qui ne leur était jamais arrivé cette saison, en s'inclinant face aux Sixers 118 à 114. Joel Embiid, qui s'est fait une frayeur en sautant la cheville avant le match, a inscrit des lancers francs décisifs en fin de match, mais le meilleur marqueur de la soirée a été Tyrese Maxey avec 33 points et 12 passes décisives. Les Celtics restent 2e à l'Est, mais relégués à 4 victoires, prennent le risque de voir Cleveland s'envoler un peu plus.
Page de sport, VOA Afrique, signé Eric Maniraki.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Jean-Roger Billon de retour avec vous pour les dossiers du jour. Au Soudan du Sud, les inondations saisonnières de plus en plus dévastatrices forcent des milliers de personnes à fuir leur village et à chercher refuge dans des zones de plus en plus isolées. Les familles déplacées font face à une lutte quotidienne pour survivre, manquant de nourriture, d'abri et de services essentiels. Le PAM et d'autres acteurs humanitaires tentent de fournir une aide d'urgence, mais les défis restent énormes dans un pays déjà dévasté par des années de guerre et de crise économique. Le récit est de Nani Telani.
Des bovins à longues cornes pataugent dans les terres inondées et grimpent une pente le long d'un canal devenu refuge pour les familles déplacées au Soudan du Sud. La fumée de bouse brûlée s'élève près de maisons, de boue et de paille où vivent désormais des milliers de personnes après que les inondations ont dévasté leur village, le transformant en marécage. Niabouot Réat Kouor, mère de famille.
À Gorouaï, il y avait trop d'inondations. Elles ont détruit notre ferme et nous ont déplacés pour de bon. Elles ont détruit notre terre et tué notre bétail. Lorsque nous avions été déplacés de notre maison, nous n'avions que des plantes sauvages à manger.
Le canal de Jonglé, qui devait à l'origine augmenter le débit du Nil vers l'Égypte, est devenu un refuge temporaire pour de nombreuses familles. Mais les conditions de vie y sont extrêmement difficiles. Écoutons encore Niabot Réat Kouo.
Nous ne survivons que grâce à l'aide alimentaire que nous recevons. Une fois qu'elle est terminée, nous partons à la recherche de feuilles sauvages et de légumes. Nous, les femmes, nous allons chercher des nénuphars dans les marais et nous revenons au bout de 2 semaines.
La région, sous le contrôle du MPLS, fondée par Riek Machar, est très difficile d'accès. À Yaoundé, le siège du comté, n'est accessible qu'après 6 heures de marche dans les eaux à hauteur de taille. La nouvelle communauté de Padiek est complètement isolée, sans réseau de téléphonie mobile ni présence gouvernementale. John Kimemia, coordinateur des largages du PAM.
Nous livrons de la nourriture par largage aérien et avant de procéder à la livraison, nous devons préparer le terrain pour une zone de largage. Dans le cas présent, la zone de largage n'était pas clairement définie. Nous avons donc dû demander l'aide de la communauté pour dégager la zone de largage.
John Kimemia explique que l'accès par bateau est impossible à cause du niveau d'eau trop bas.
Il n'y a pas d'accès pour le moment par route ou par bateau à partir du canal. L'eau est si basse qu'elle ne peut pas contenir les bateaux qui transportent beaucoup de nourriture et les routes ne sont pas praticables.
Le PAM a enregistré plus de 69 000 personnes dans la région recevant de l'aide alimentaire. Mais les rations ont été réduites de moitié en raison du manque de financement international. En parallèle, la crise économique, exacerbée par la guerre civile et l'interruption des exportations de pétrole, a aggravé la situation. Jong Dok Tout, responsable clinique.
Nous manquons de services médicaux. Le nombre d'accouchements est faible parce qu'il n'y a pas d'accès. Il y a beaucoup d'eau.
Face aux inondations catastrophiques et à l'isolement croissant, ces habitants du Soudan du Sud continuent de dépendre de l'aide humanitaire pour survivre. Cependant, les défis restent immenses et une action internationale renforcée est cruciale pour répondre à cette crise humanitaire.
En Afrique du Sud, les petits producteurs de maïs de 6 provinces utilisent des technologies numériques locales normalement réservées aux agriculteurs commerciaux pour tirer le meilleur de leurs champs. C'est un reportage de Marie de Clercq. Le récit est de Thierry Kaoré.
Les progrès de la technologie agricole ont aidé les agriculteurs commerciaux à augmenter leur rendement dans le monde entier. Mais les problèmes de prix et d'accessibilité signifient que les petits agriculteurs n'ont pas accès à la même technologie. Pour combler cette lacune, le Conseil sud-africain pour la recherche scientifique et industrielle, CSIR, est en train de mettre au point un système en ligne conçu pour les petits exploitants. Il s'agit du système d'information sur l'agriculture de précision, PAIS. Moses Cho est le responsable scientifique du projet. Il explique que la plateforme fonctionne dans les langues locales et utilise l'intelligence artificielle pour analyser les données qui peuvent aider les agriculteurs à rendre leurs champs plus productifs.
Nous avons adopté le pH du sol, la teneur en matière organique du sol, la teneur en azote du sol, ou des informations qu'aucun autre système n'a réussi à obtenir à ce niveau.
Les données sont collectées à l'aide de drones et d'autres équipements, puis comparées à des images satellites pour aider les agriculteurs à optimiser les conditions de culture. Selon le CSIR, le système pourrait augmenter les rendements des agriculteurs de 20%. Stéphane Jesus van Rensburg est un expert en agriculture numérique chez Bayer Crop Science qui n'a pas participé au projet du CSIR. Il explique que l'un des défis consiste à apprendre aux agriculteurs à analyser les données.
Il faut que les agriculteurs puissent s'adapter à un prix abordable. Le deuxième défi est celui de l'éducation. Les agriculteurs doivent être éduqués, formés et perfectionnés sur la manière d'utiliser les produits de base de manière efficace.
Au nord-ouest de Johannesburg, Vandel Sikosana, qui aspire à devenir agriculteur commercial, n'en est encore qu'au stade de l'émerveillement, mais il affirme qu'il n'a pas été trop difficile d'apprendre les capacités du projet actuel et la manière dont il peut améliorer ses rendements de maïs.
Ils disent qu'ils peuvent vérifier l'humidité du sol, je veux dire par satellite, c'est comme « waouh, vraiment ». Je comprends ce que ça me dit. Et ce n'est pas si difficile à utiliser. Je dois dire que pour quelqu'un qui est né avant la technologie, je peux m'y retrouver.
Alors que Sikosana et son équipe se dépêchent de planter les dernières graines de la saison, il espère utiliser les données du PAIS pour l'aider à choisir le bon engrais afin d'obtenir de meilleurs rendements l'année prochaine.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
2024 a vu une réorganisation majeure de l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient. Le Liban a une fois de plus été au centre de ce bouleversement, alors qu'Israël a lancé des raids et des frappes aériennes massives en réponse aux attaques du Hezbollah, détruisant au passage des pans entiers du pays. Un cessez-le-feu fragile en novembre a fait taire les bombardements, au moins temporairement, mais le changement de régime en Syrie menace d'accroître l'instabilité en 2025. Depuis Beyrouth, le reportage de Jacob Russell, le récit est de Jacques Aristide.
Même pour un pays comme le Liban, 2024 a été une année tumultueuse. La guerre entre le Hezbollah et Israël a englouti le pays après avoir couvé pendant près d'un an le long de la frontière. Le puissant et charismatique chef du Hezbollah, Hassan Nasrallah, a été tué, de même qu'une grande partie de ses hauts dirigeants. Autrefois une force politique majeure au Liban et un fidèle allié de l'Iran, le parti a été ébranlé et a accepté les conditions d'un cessez-le-feu à la fin du mois de novembre. Paul Salem est vice-président de l'engagement international au Middle East Institute.
Je pense que l'Iran et ce qui reste du Hezbollah se sont dit qu'ils avaient besoin d'une désescalade. Ils ont besoin de plusieurs années de calme et de stabilité pour trouver la voie à suivre pour l'Iran et pour eux-mêmes, pour leur stratégie de reconstruction du Hezbollah.
Mais le calme et la stabilité s'avèrent difficiles à trouver. À peine quelques heures après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu le 27 novembre, les rebelles de la Syrie voisine ont lancé une offensive de grande envergure qui a renversé en deux semaines le régime d'Assad après plus de 13 ans de guerre civile. Le Hezbollah a joué un rôle prépondérant pour maintenir Assad au pouvoir. Nizar Ghanem est directeur de recherche à l'Alternative Policy Institute.
Dans une guerre avec tous ces éléments changeants, vous comprenez parfaitement, comme toute force en Syrie, que vous avez juste une chance. Le Hezbollah est rétrogradé, l'Iran est en difficulté, la Russie est en difficulté en Ukraine. C'est le bon moment pour agir.
La chute d'Assad a coupé les voies d'approvisionnement entre l'Iran et un Hezbollah déjà affaibli. Avec les conditions de cessez-le-feu qui exigent que le Hezbollah se retire de la frontière israélienne, des analystes voient s'ouvrir une fenêtre d'opportunité pour le Liban. Paul Salem du Middle East Institute.
Le sud Liban ne remplit plus de fonctions militaires stratégiques pour l'Iran. C'est une bénédiction pour le Liban. Cela signifie qu'ils n'investiront pas dans une présence militaire majeure dans le sud du Liban.
Comme toujours, il y a un équilibre délicat à trouver. Le Hezbollah est un acteur régional majeur depuis des décennies et maintient une base civile importante et fidèle au Liban. Son effondrement laisserait un vide dangereux. Nizar Ghanem, de l'Alternative Policy Institute.
Si nous voulons une défaite totale et écrasante du Hezbollah comme celle du Baas en Irak, nous allons assister à une guerre sans fin de la région où les voitures piégées vont exploser de Bagdad à Jérusalem. Le Liban lui-même s'effondrerait.
Avec les événements qui se déroulent à un rythme vertigineux dans toute la région, le Liban est confronté à une incertitude majeure en 2025 et sa population se prépare à une nouvelle année marquée par les violences.
Alors qu'il se prépare à entrer en fonction dans moins d'un mois, le président élu des États-Unis, Donald Trump, a menacé de réaffirmer le contrôle des États-Unis sur le canal de Panama et il a renouvelé ses appels pour acheter le Groenland au Danemark. La chef du bureau de la VOA à la Maison-Blanche, Patsy Widakuswara, nous présente ce reportage. Le récit est de Gabi Dorsil.
Le Groenland, territoire semi-autonome recouvert de glace et appartenant au Danemark, est de nouveau dans la ligne de mire du président élu Donald Trump. Alors qu'il nommait son ambassadeur au Danemark dimanche, Trump a écrit, je cite, « Pour des raisons de sécurité nationale et de liberté à travers le monde, les États-Unis d'Amérique estiment que la possession et le contrôle du Groenland sont une nécessité absolue. » Trump a également suggéré dimanche qu'il reprendrait le contrôle du canal de Panama. Il a qualifié les tarifs imposés par le Panama pour utiliser cette route maritime vitale de véritable arnaque.
Si les principes, tant moraux que juridiques, de ces gestes magnanimes des cessions ne sont pas respectés, alors nous exigerons que le canal de Panama soit rendu aux États-Unis d'Amérique en totalité, rapidement et sans poser des questions.
Chaque mètre carré du canal continuera d'appartenir au Panama, a déclaré le président panaméen José Raúl Mulino, rejetant les accusations de surtarification.
Les tarifs ne sont pas arbitraires. Ils sont établis publiquement lors d'une audience ouverte en tenant compte des conditions du marché, de la concurrence internationale, des coûts d'exploitation et des besoins d'entretien et de modernisation de cette voie interocéanique.
La première ministre danoise, Mette Frederiksen, a également riposté, affirmant que le Groenland n'est pas à vendre. Les premiers appels de Trump à acheter le Groenland en 2019, lors de son premier mandat, n'ont donné aucun résultat. Mais ses déclarations actuelles, alors qu'il se prépare à prêter serment le 20 janvier, suscitent l'inquiétude de certains alliés et partenaires. Cela inclut le Canada. Trump a qualifié le premier ministre Justin Trudeau de « gouverneur », suggérant que les États-Unis pourraient absorber leurs voisins du Nord, tout en menaçant d'imposer des tarifs de 25% contre ce pays. Les objectifs finaux de Trump restent flous, mais lundi, son fils Eric a publié sur les réseaux sociaux une photo trafiquée montrant son père achetant le Canada, le Groenland et le canal de Panama via Amazon, le site d'achat en ligne.
Le Monde aujourd'hui, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Jean-Roger Billon à ce micro, à la mise en onde, Lionel Gaïma. Un grand merci à la rédaction et à toute l'équipe de production. Rendez-vous sur notre site internet voafrique.com et nos pages Facebook, YouTube, la plateforme X et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Je vous souhaite une excellente soirée à l'écoute de nos programmes.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, à Dakar sur 102 FM, 91.5 FM Bujumbura, Raga FM 90.5 Kisangani, Sabou FM 96.6, Kindia Guinée et bien d'autres encore sans oublier sur ondes courtes. Le Monde aujourd'hui sur VO.